Bonjour et bienvenue dans le balado Précipitation. À l'été 2023, le Centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile, le CERDA, est allé à la rencontre d'hommes et de femmes d'Afrique, d'Asie du Sud et d'Amérique centrale qui sont venus trouver refuge au Québec. Nous les avons rencontrés virtuellement ou en personne et leur donnons la parole dans ce balado. Ensemble, leurs témoignages nous éclairent sur les impacts que le climat et l'environnement peuvent avoir sur leur vie quotidienne ainsi que sur leurs déplacements. Bon voyage au cœur d'un phénomène complexe. Dans les épisodes précédents, nous avons voyagé à travers les récits des personnes en Amérique latine, en Afrique ainsi qu'en Asie du Sud, afin de découvrir certaines spécificités régionales de l'environnement et du climat. Malgré les kilomètres qui séparent ces expériences, les personnes interviewées nous ont fait part d'enjeux environnementaux parfois similaires. Dans l'épisode qui suit, nous allons approfondir ces enjeux et découvrir comment différentes thématiques s'entremêlent pour laisser place à un portrait complexe de la migration en contexte de changements climatiques et environnementaux. Un portrait qui va bien au-delà des causes et des conséquences dites naturelles. Au-delà des catastrophes soudaines à l'allure spectaculaire qui captent rapidement l'intérêt des médias et s'inscrivent dans notre imaginaire collectif, se trouvent des changements environnementaux et climatiques plus lents, qui évoluent graduellement dans le temps et qui s'infiltrent dans la vie des populations en altérant leur quotidien. Par ailleurs, comme en témoignent les participants de ce balado, ces changements se manifestent différemment d'un endroit géographique à l'autre. Pour commencer, Saad nous parle de dégradations environnementales au Pakistan qui se manifestent notamment par une pollution de l'air, des sols et de l'eau.
La pollution de l'air, la dégradation des terres et la pollution de l'eau affectent les régions, car en général, on peut dire qu'il y a beaucoup de constructions en cours là-bas.
Mais Saad n'est pas le seul à observer ces dégradations au Pakistan. Par exemple, Roland explique comment se manifeste la pollution de l'air au Cameroun.
Il y avait aussi les sociétés qui rejetaient les mauvais gaz, qui parvenaient à arriver dans mon quartier. Bon, avec tout ça, ça faisait que l'atmosphère n'était pas vraiment sereine. Il y avait aussi, comme je disais, le sol se dégradait. Parfois, ça se fendait. Les alentours étaient souvent comme ça. Il y avait aussi l'air qui venaient des entreprises qui rejetaient, mais qui arrivaient parfois près de mon environnement, près de mon habitation, bon, c'est ça.
Guadeloupe témoigne également des conséquences de la pollution au Mexique.
Oui, ça a eu beaucoup d'effets. Par exemple, je souffrais de migraines, de maux de tête sévères environ 2 fois par an. On nous disait que c'était à cause du stress, du smog, ce genre de choses. Je n'ai pas entendu dire que la situation s'était améliorée sur le plan de la pollution. Ça s'est aggravé au fil des ans.
Puis, comme le démontrent Margarita et Ernestine en parlant du Nicaragua et de la RDC, la dégradation de l'air peut également s'observer au sein même des ménages.
Du bois de chauffage, les gens cuisinent avec. Et les gens à la campagne vivent avec des problèmes pulmonaires à cause de l'inhalation du bois de chauffage.
On était dans la capitale, mais on n'avait pas d'électricité. Du coup, on avait des bois de chauffage pour faire la cuisine. Or, tout ça, c'est la pollution.
La dégradation de l'eau peut également avoir un impact sur le quotidien des personnes affectées. Comme en témoignent plusieurs des personnes interrogées, cela peut notamment être le résultat d'une mauvaise gestion des déchets, que ce soit en Colombie, le pays de Elena.
Là-bas, il y a des grilles qui, normalement, quand il pleut, l'eau devrait s'évacuer. Mais les gens ne peuvent pas voir qu'il pleut et qu'il y a un ruisseau parce qu'ils commencent à jeter des sacs d'ordures dans le ruisseau. Mais comment je peux penser que je vais jeter un matelas, une chaise en bois, des sacs de déchets dans un ruisseau? Donc, toute la pluie, tous les déchets, toute l'eau qui tombe quand il pleut, c'est comme si Barranquilla était sur une colline et toute cette eau descend et elle rejoint la rivière.
Ou encore en RDC, comme l'expliquait Ernestine dans le premier épisode.
Comme quoi, pendant la saison sèche, on sait que non, il n'y a pas beaucoup de mouvements comme des dégâts, si je peux dire ça comme ça. Alors que pendant la période de pluie, c'était vraiment plein de dégâts, des érosions, des inondations. Même l'air, là, c'était vraiment pollué parce qu'il y avait, pendant la pluie comme ça, il y a des gens qui en profitaient pour dégager l'air fosse septique, pour vider l'air fosse septique. Je ne sais pas pour le moment s'ils ont changé, mais avant, là, on avait un gouvernement vraiment irresponsable qui eux, voient seulement les conséquences, mais ils ne voient pas la cause. Ils se plaignent de l'inondation, ils se plaignent de tout ce que les changements climatiques apportent, tout ce... Mais ils ne voient pas quoi faire pour qu'on n'arrive pas à ces inondations ou à ces dégâts naturels.
Dans les milieux urbains, les changements graduels dans l'environnement peuvent parfois se manifester par une certaine déconnexion avec la nature. Par exemple, en plus de la pollution de l'air, de l'eau et des sols, Guadeloupe nous parlait dans le premier épisode de la pollution sonore du trafic routier, qui ne permettait plus d'entendre les oiseaux. Saad a aussi relevé le bruit du trafic au Pakistan.
À cause du trafic, le bruit de la circulation, c'est beaucoup plus fort là-bas en été, parce que cela affecte vraiment l'humeur. Les gens deviennent de plus en plus en colère, et juste à cause de la chaleur.
Daniela et Elena, quant à elles, illustrent comment les grandes villes deviennent de plus en plus déconnectées de la nature et comment ces changements de paysage et d'environnement impactent les citadins. Par exemple, au Mexique, Daniela déplore le manque d'arbres pour se protéger du soleil et de la chaleur.
Je pense que lorsqu'il faisait chaud, j'étais le plus touchée parce que j'aime beaucoup le froid. Donc, à ces périodes-là, c'était un plaisir pour moi. Mais quand il faisait chaud, j'ai beaucoup souffert. Pourquoi? Parce que mon trajet était un peu long. Je devais d'abord rejoindre ma fille. Donc, je devais faire un trajet plus long. Et si je sortais en pleine chaleur, je souffrais beaucoup parce qu'il n'y avait pas d'ombre. Malheureusement, là où j'ai marché, c'était un grand boulevard. Parfois, il n'y avait pas d'arbres. Où est-ce qu'on pouvait trouver de l'ombre? Puis, dans la circulation ou au sort des points, on se retrouvait en plein soleil et on restait bloqué un bon moment. Et il fallait endurer la chaleur tout ce temps jusqu'à que la circulation reprenne.
Dans le même sens, Elena témoigne des changements apportés à l'environnement pour encourager le tourisme en Colombie et le remplacement d'espaces verts par des infrastructures artificielles.
Je suis critique à l'égard de la ville d'où je viens. On montre parfois des photos sur les réseaux sociaux d'un avant et d'un après de ce qui était la ville. Et avant, Barranquilla était une ville où les rues principales avaient une sorte de boulevard avec des arbres, des très grands arbres, surtout des chênes qui vous donnent de l'ombre. S'il n'y a pas de plantes, alors évidemment, tout le soleil va nous frapper parce qu'il n'y a nulle part où l'on peut se protéger des rayons du soleil. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Soudain, j'ai vu que tous ces changements qui ont été faits dans la ville, ils ont fait beaucoup de très beaux changements, ce qui rend la ville beaucoup plus belle, beaucoup plus jolie pour les touristes. Mais le problème, c'est qu'au lieu de planter une plante ou un arbre, ils ont construit une structure en béton. Alors je dis qu'une structure en ciment ne pourra jamais remplacer une plante. Écoute, là où j'ai vécu, juste au coin de la rue, nous avions un parc, un grand parc qui avait 5 grands arbres. Mais je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas profiter du fait que nous sommes en été tout le temps et en tirer profit. Puisque nous sommes un pays si riche, avec une terre si fertile, si riche en culture, pourquoi construire un parc synthétique? Tous les parcs de l'Atlantique sont synthétiques, à base de ciment où on y met de l'herbe synthétique, c'est-à-dire que c'est faux. Je ne comprends pas pourquoi ça ne peut pas être naturel. La personne qui va entretenir les plantes, qui va les arroser, pourquoi économiser cette force de travail? En réalité, on génère aussi de l'emploi. Pourquoi les remplacer par quelque chose qui, mal ou bien, doit être constamment changé parce qu'il se dégrade? Que si le sol est cassé, il faut le changer à nouveau, le réparer. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette partie du système, avec la façon dont ils se débarrassent de tout petit espace vert qui reste.
Dans les extraits précédents, les personnes nous ont raconté les diverses façons dont leur environnement a été modifié dans les dernières années par des changements plus lents, dont des dégradations des sols, de l'air, de l'eau, mais aussi via une altération humaine des milieux urbains, qui a modifié par le fait même leur façon de vivre avec la nature. D'un regard extérieur, ces changements n'ont rien d'aussi saisissant que les événements qui font rapidement les manchettes, comme les inondations, les ouragans ou les glissements de terrain. Pourtant, ils ont aussi des impacts importants sur les populations concernées. Mais surtout, ces changements nous permettent de porter un regard différent sur les changements climatiques et environnementaux et de se questionner. Est-ce vraiment la nature qui est en faute ? Margarita et Daniela, toutes deux originaires de l'Amérique latine, racontent comment leurs environnements ont changé dans les dernières années en raison de la déforestation.
L'île de Metepe est fraîche. Il y a des endroits comme Matagalpa, d'autres endroits qui sont frais. Et vous pouvez sentir le froid qui actuellement n'est pas aussi frais que dans les années passées. Et c'est à cause de l'exploitation forestière qui a eu lieu. Il faisait vraiment très frais à Matagalpa aussi, mais avec l'abattage des arbres qui a eu lieu et la pollution, eh bien, il se peut que ce ne soit pas aussi frais qu'avant.
Elle est très belle, ma ville. C'est très touristique, mais j'ai l'impression qu'ils ont repoussé toute la nature parce qu'ils voulaient de nouveaux bâtiments, alors qu'ils pourraient respecter ou s'adapter à la nature. Ça me rend très triste, cette route qu'ils ont élargie en coupant des arbres. Malgré le fait que la société s'efface, ils le font au milieu de la nuit pendant que les gens sont endormis. Les défenseurs de la nature, ils ne le savent pas, parce que sinon, c'est un long chemin que j'avais l'habitude de parcourir tous les jours, et vous pouvez voir les arbres là, beaux, grandissants, de plus en plus, et ainsi de suite, et d'un jour à l'autre, vous arrivez et les arbres sont coupés. Mais ils vous disent, nous élargissons la route parce qu'il y a plus de véhicules que de personnes. Voilà ce que je ressens.
Mais qui bénéficie de la déforestation? Et qui en paye les conséquences? Il serait difficile, voire impossible, de répondre à cette question sans tenir compte des spécificités locales de chaque environnement. Mais les témoignages nous offrent certaines pistes de réflexion. Par exemple, au Pakistan, Saad estime que ce sont les mafias de la construction et de l'immobilier qui déforestent des terrains afin de s'enrichir en construisant des immeubles.
La mafia comme les constructeurs ont vraiment coupé les arbres ou la forêt de manière vraiment brutale. C'est plutôt dommage et assez triste que la mafia des constructeurs, l'immobilier, ait vraiment tué l'environnement de cette ville. Il y a 20 ou 30 ans, la ville était comme une ville de jardin. Nous pouvions trouver beaucoup d'arbres, d'herbes et de verdure en général, mais les constructeurs ont coupé ces arbres férocement et de très mauvaise manière. Et maintenant, la température est très élevée par rapport à il y a 20 ans. Les températures en été étaient de 35 à peut-être parfois jusqu'à 40 degrés, mais maintenant, elles dépassent les températures supérieures simplement à cause de l'abattage et de la coupe d'arbres et de zones vertes. Ils sont affamés d'argent. Ils coupent les arbres et la verdure là-bas. Ils construisent simplement les bâtiments et les sociétés de logement pour les gens. Et les gens ont vendu leurs propriétés et leurs espaces verts. Dans les villages aussi, ils ont vendu à ces marchands immobiliers pour construire les bâtiments et pour cela, ils leur offrent de belles sommes d'argent. Je dirais que cette culture d'entreprise dévaste le monde entier. Maintenant, nous sommes en 2023. Nous n'avons peut-être pas de soucis, mais je dirais qu'en 2050, comme dans 15 à 20 ans, le ciel nous tombera sur la tête et à ce moment-là, nous n'aurons nulle part où aller. Partout dans le monde, les glaciers fondent si rapidement et la température de l'eau augmente avec le temps. Et les nombreuses autorités du monde s'inquiètent parce qu'ils sont préoccupés par cet environnement également. Mais la mafia de l'immobilier fait pression sur le gouvernement pour donner la permission de construire davantage de sociétés de logement. Ils ne se soucient pas de la verdure, des arbres et de ces choses. Donc, c'est assez alarmant.
Saad est éloquent dans sa manière de décrire les raisons sous-jacentes à la déforestation au Pakistan. L'environnement est détruit dans une perspective de croissance économique et de développement urbain dans plusieurs régions du monde. Margarita et Daniela l'expliquent également au Nicaragua et au Mexique.
Par exemple, aujourd'hui, il y avait Marena, qui s'occupait de l'abattage des arbres, qui faisait partie du patrimoine. Ils étaient entretenus. Il y avait des liens parce qu'avec tous ces trucs de gouvernement, eh bien maintenant, ils ont laissé les gens faire ce qu'ils voulaient. Et le gouvernement lui-même les laisse couper les arbres pour la même raison, parce qu'ils n'exportent pas, ils ne leur procurent plus rien. Alors aujourd'hui, c'est tout un business. Je veux dire, maintenant, personne ne peut dire quoi que ce soit ou réclamer que ce qu'ils font est illégal, parce que la vérité est, tous les gens qui s'enrichissent sur le pays, ce sont des gens qui sont du gouvernement. Donc si avant, il y avait une réglementation sur l'exploitation forestière, aujourd'hui, Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien.
Il y a beaucoup d'exploitations forestières. Ils sont enlargés en route et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont coupés des arbres pour l'élargir. Cela affecte donc tous les gens à long terme. Je ne sais pas. C'est une bonne chose pour l'urbanisation, plus de chemins et plus de routes. Mais je pense aussi que nous avons besoin de la nature pour contrer tous ces types de catastrophes. Et j'ai vu beaucoup de choses dans ce sens. Même si c'est un beau pays, nous avons encore besoin d'apprendre beaucoup sur la nature, sur les changements climatiques, parce qu'il les laisse un peu à l'arrière-plan. La nature n'est pas la chose la plus importante pour mon pays. C'est comme si c'était d'abord l'économie. En fin de compte, tout tourne autour de l'économie.
Dans cette perspective de développement et de croissance pour favoriser l'étalement urbain et la construction de routes et d'infrastructures, l'environnement est altéré par les personnes au pouvoir, mais aussi par des compagnies privées. Et comme nous le rappelle Saad, lorsque l'écosystème est altéré par la déforestation, cela peut avoir des conséquences désastreuses sur l'environnement. Nous avons donc ici un exemple flagrant de désastre causé par une mauvaise gestion de l'environnement. Parallèlement, dans des contextes climatiques où les risques d'événements dits naturels sont élevés, les infrastructures ont aussi un rôle important. Comme l'illustre Amadou dans son témoignage, les égouts de Dakar, la capitale du Sénégal, ne sont pas adaptés à la croissance urbaine et débordent lors de fortes pluies.
Il n'y a même pas d'infrastructures parce que les infrastructures qui sont là-bas sont des infrastructures durant les périodes coloniales où il n'y avait même pas plus de 5 millions d'habitants. C'est ces infrastructures-là qui sont toujours implémentées pour 17 millions d'habitants. Donc, c'est pour cela que je pense même que l'agriculture n'est pas développée parce que tout le monde délaisse l'agriculture pour aller vers Dakar, chercher un travail là-bas, quoi, vu que les infrastructures ne sont que là-bas. Quoi. Donc, le peu qu'on a est bloqué dans cette petite ville. Donc, tout le monde est obligé de se déplacer là-bas pour essayer de subvenir à ses besoins. Donc, c'est un peu cela qui cause aussi des inondations. Comme je l'ai dit, les égouts sont faits pour des personnes qui ne sont pas nombreuses. Presque pour le Sénégal et à Dakar maintenant. Donc, c'est un peu difficile.
En RDC, Ernestine parle de constructions anarchiques qui ne sont pas faites pour résister aux fortes pluies.
Les gens s'en foutent du climat, de l'environnement, mais quand même, quand il y a des conséquences, les gens sont quand même affectés. Là. Les gens sont vraiment affectés parce qu'il y a des constructions anarchiques. Et puis, quand il y a comme des inondations comme ça, l'eau de la pluie amène tout lors de son passage.
Et aussi au Mexique, Guadalupe explique que les infrastructures ne sont pas adaptées au séisme.
À cause d'une mauvaise planification de la construction, du drainage, du nettoyage, les égouts sont bouchés par les déchets. Il n'y a pas un bon écoulement pour pouvoir drainer l'eau qui reste après la pluie.
Si les infrastructures ne sont pas adéquates et adaptées au contexte climatique et à l'environnement, les risques d'impact sur les populations augmentent. Guadalupe poursuit en expliquant.
J'ai dit, bon, à la ville de Mexico, c'est une simulation en temps réel. Donc oui, c'est constant. Mais regarde, je suis arrivée à la conclusion que tant d'excavations, tant de pluies qui s'accumulent sur les plaques et tout ce genre de choses, ça a beaucoup d'influence sur les tremblements de terre. La ville de Mexico est déjà une zone très sismique, mais il y a aussi beaucoup de constructions dans des endroits où elles ne devraient pas être. Et la qualité des matériaux utilisés pour la construction n'est pas bonne. Par exemple, la cathédrale s'enfonce et la ville a été construite sur un lac. Tous ces éléments ont donc un impact sur le long terme.
Elena illustre également les effets néfastes des mauvais systèmes d'évacuation des eaux en Colombie.
Il n'y a pas de bon drainage dans la ville. Ils ont déjà commencé à faire des réparations. Par exemple, là où j'habitais, il y avait une grande rue et un ruisseau énorme s'est formé. Le mur était haut et l'eau arrivait jusqu'en haut sans jamais inonder. La maison ne s'est jamais inondée ou quoi que ce soit parce que les maisons sont hautes. Mais l'année dernière, les rues ont été canalisées et il n'y a plus de ruisseau qui se passe par là. Mais la municipalité est toujours en train de canaliser l'ensemble de la ville. Ils le font petit à petit, mais pas pour des tempêtes ou des tempêtes fortes.
Ces exemples illustrent comment un aléa de la nature peut se transformer en une catastrophe. Par exemple, dans un contexte où le risque d'inondation est élevé durant la saison des pluies, de mauvaises infrastructures ou un système d'évacuation des eaux inadéquat augmentent les impacts de ces inondations sur les populations. Que ce soit donc par l'entremise de compagnies privées ou d'actions gouvernementales qui modifient l'environnement, ou encore par une gestion des infrastructures qui ne tient pas suffisamment compte du contexte climatique et environnemental, il est clair que les activités humaines en sont au cœur, qu'elles y contribuent directement ou qu'elles aggravent les conséquences de ces changements. Les catastrophes sont rarement que des phénomènes entièrement naturels. Grâce aux témoignages des personnes qui ont participé à notre projet, nous pouvons voir comment la création de risques face au climat et à l'environnement est liée aux diverses activités humaines. On pense notamment à la surexploitation des ressources naturelles, à l'étalement urbain, à la déforestation, à l'émission de gaz à effet de serre, etc. Mais face aux risques des facteurs climatiques et environnementaux, quelles mesures prennent les gouvernements ? En quoi s'assurent-ils, ou non, de protéger leur population ? Ernestine estime que le gouvernement de la RDC ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de l'environnement, que ce soit en assurant une meilleure gestion des déchets par exemple, ou en venant en aide aux personnes touchées par les inondations.
En Afrique, il y a beaucoup de gouvernements irresponsables. Excusez-moi les termes, mais c'est vraiment ça la vérité. C'est vraiment une réalité à part d'ici, quand même, il y a des fois, le gouvernement s'implique. Quand le gouvernement n'arrive même pas à assurer la sécurité de ses citoyens, et là, le gouvernement lui-même s'implique dans l'insécurité de ses citoyens, vous croyez vraiment que ce gouvernement aura vraiment la volonté de s'impliquer sur l'environnement? Je ne crois pas, mais eux, ils font ce qu'ils veulent faire, mais pas dire que s'impliquer parce qu'ils ont les soucis de la population. Je sais que les gouvernements ont de l'aide aussi de l'extérieur à cause de l'environnement, mais le gouvernement ne prend pas les choses en main. Il y a même récemment, j'ai suivi à l'information aussi, là, des gens qui meurent comme ça dans des inondations, dans des trucs, mais on ne prend pas les choses en main. Ou moi, je peux dire, oui, la population, on peut éduquer la population. Mais il n'y a pas comme quand moi je grandissais, quand j'étais chez nous là-bas au Congo, il n'y avait pas comme des poubelles publiques, par exemple. Il n'y en a pas. Donc, vous voyez que non, le gouvernement lui-même n'a pas cette volonté de consentir des efforts pour s'en sortir de ces fléaux, je peux dire ça, climatiques.
D'ailleurs, le témoignage de Bernadette vient appuyer les propos d'Ernestine pour la RDC.
En RDC, il n'y a pas de réparation. C'est triste. Ça devient plus intense parce que là où c'est bouché à cause de l'érosion précédente, on n'a pas de débouché. Et quand la pluie tombe, il manque ou l'eau manque ou passer, ça déborde et ça crée encore d'autres érosions. Non, ça se détériore plutôt du jour au jour. Et c'est triste. Mm-hmm. Et c'est vraiment triste parce que ce n'est pas l'argent qui manque parce que mon pays est très riche. Mais ceux qui travaillent dans les gouvernements, ils ne font que mettre ça dans leur poche. C'est triste. C'est la triste réalité.
Et quand on lui demande si le gouvernement vient en aide aux personnes qui ont perdu leur maison ou un proche dans les inondations, Bernadette répond.
Ah non, 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 vous partez, vous partez. Vous partez, vous partez. Il n'y a pas de dommages et rien. Oubliez, il n'y a pas où tu vas aller. Tu ne vas même pas réclamer. Et il n'y aura personne qui viendra faire le recensement. Nous, on appelle ça recensement. Non. Hein? Non. Vous allez à la famille pour les soutenir, si vous les connaissez. Et puis, vous êtes triste. Et puis, après les deux, c'est fini. Hein? Et ta maison est partie. À toi de t'arranger. Il ne vaut même pas te donner un sheeting. Comment vous appelez ? Une tente. Non, non, non. Arrange-toi pour aller passer la nuit chez des amis qui vont t'accueillir ou les membres de la famille. Oh.
Au Pakistan aussi, le manque d'action du gouvernement est souligné par Saad, notamment en ce qui concerne l'accès à l'électricité pour l'ensemble de la population.
Je dirais que l'économie est une partie complexe de n'importe quel pays. Le gouvernement a une politique environnementale, mais ne l'ont pas physiquement mise en pratique, on peut dire. Et la superficie du Pakistan est très vaste. Il pourrait avoir des projets comme l'énergie solaire, des projets d'énergie éolienne pour faire face au coût de l'énergie, mais il ne s'inquiète pas vraiment de ces projets. S'il avait un projet d'énergie éolienne pour l'électricité, et s'ils avaient plus d'énergie, il y aurait plus de travail pour les gens. Parce qu'il est très difficile de répondre aux besoins électriques du pays. Donc, à l'avenir, s'ils deviennent sérieux, ils devront réaliser ces projets d'énergie éolienne. Ils devront passer du charbon ou du pétrole aux ressources naturelles de l'électricité, comme les panneaux solaires. Alors, j'espère qu'ils nous écouteront, parce que nous avons élevé tellement de voix à ce propos. Selon la politique, ils ont tous les moyens, les pièces sont climatisées et équipées de tout ce dont vous avez besoin pour faire face aux étés. Donc, ils ne se soucient pas de ce genre de choses.
Finalement, Julio rapporte des changements dans le soutien du gouvernement du Nicaragua aux agriculteurs.
L'autre partie sociopolitique, je dirais, je ne sais pas si tu connais les dédommagements agricoles, c'est-à-dire qu'il y a moins d'aide, moins de soutien du gouvernement à l'agriculture. Par exemple, avant, ils ne payaient pas de taxes pour les insecticides, les produits chimiques qu'ils utilisent. Aujourd'hui, ils payent des taxes, donc c'est une charge, c'est un coût de plus que l'agriculture doit payer. Et en prenant le risque, même avec l'environnement, ils peuvent perdre encore plus la récolte.
À la lumière de ces extraits d'entrevues, nous pouvons constater comment, face à ces risques liés aux conditions climatiques et environnementales, les gouvernements prennent des actions limitées et parfois limitantes. Mais aussi, il faut tenir compte du fait que ces risques interagissent avec d'autres facteurs et enjeux politiques. Ernestine nous donne un exemple de ces interactions dans le contexte de la RDC, où des conflits éclatent autour de la possession de terres cultivables et peu hostiles, c'est-à-dire peu altérées par des enjeux climatiques et environnementaux.
Ça contribue dans quel sens? Parce qu'il y a cette concentration, il y a des guerres, il y a tout ça, parce que tout le monde veut avoir un coin du pays. Il y a l'instabilité politique, il y a la guerre, parce que tout le monde veut avoir ce coin-là. Ils ne veulent pas d'autres coins parce qu'ils savent que d'autres coins n'est plus vivable. Comme je dis là, c'est vraiment plus hostile. Et les gens se combattent, se battent à cause d'un coin. Parce que là, au moins, ils se disent que c'est vivable. Au moins, il y a des infrastructures. Au moins, s'il y a des enjeux climatiques, les gens sont prêts à trouver des solutions. Mais il y a d'autres endroits, les autorités, où les gens n'ont même pas conscience des enjeux climatiques ou environnementaux qui découlent. Donc, les gens se battent, là, les gens s'entretuent à cause de quoi, où l'environnement s'en va, ou, comme je ne sais pas si vous savez, dans mon pays, il y a l'histoire de la guerre, ou, qui ravage mon pays, là, à l'est. Il faut même pas voir ça, là, même, moi, j'ai été interprète pendant 5 ans au camp de refuge, là, au Malawi. J'ai interprété les 4 langues de mon pays. Il y a beaucoup plus de gens qui venaient du camp de refuge, venaient de mon pays, mais de l'Est, pas de là où moi je venais, mais de l'Est, là où il y a la guerre. Mais vous allez sentir que les gens fuient beaucoup plus les enjeux climatiques. Oui, la guerre, mais les enjeux climatiques. Par exemple, il y a des gens qui se battent. Là. Il y a quelqu'un qui est allé prendre des groupes de rebelles parce que pour lui, il s'est dit que son frère, parce qu'il y a en Afrique, on a des croyances là qu'on s'est dit, là, des croyances là, des sorcelleries, des consorts. Et on s'est dit que son frère qu'il a ensorcelé pour que son champ prenne du feu, pour que l'eau de la pluie ravage tout son champ. Or, ce sont des enjeux climatiques. L'inondation, ce sont des enjeux, c'est naturel. Mais eux, ils se battent, s'entretuent et les gens fuient à cause de ça dans des camps de refuge parce que son frère veut le tuer, parce que son frère l'accuse de donner un mauvais sort à son champ, à sa culture, à ce qu'il a cultivé, pour que la pluie ravage tout. Et quelqu'un comme ça, à cause de ces disputes-là, doit quitter son pays pour aller se réfugier. Or, ils ignorent que c'est vraiment les enjeux climatiques et environnementaux. Et il y a plein de réfugiés comme ça. Il y a plein de dossiers comme ça que moi, j'ai interprétés en l'occurrence le Malawi, d'où j'ai vécu pendant 7 ans. Il y avait beaucoup de morts à cause nécessairement des ressources ou de l'intervention. Il y a des enjeux climatiques comme ça, mais apparemment, le pays est pauvre.
Ce troisième épisode nous a fait voyager autrement à travers la manière dont se manifestent certains changements climatiques et environnementaux dans le quotidien des personnes avant leur migration vers le Québec. Surtout, les témoignages présentés dans cet épisode nous permettent de constater comment ces changements sont rarement que naturels, mettant en lumière les causes sous-jacentes et systémiques qui les engendrent. Par exemple, les personnes interrogées nous ont parlé de la pollution de l'air et de l'eau, qu'ils et elles associent notamment aux entreprises polluantes et à une mauvaise gestion des déchets. Par ailleurs, d'autres nous ont parlé de déforestation à des fins d'étalement urbain dans une perspective de croissance, en dépit des impacts environnementaux. En effet, les enjeux climatiques et environnementaux sont complexes et sont liés à la fois aux enjeux socio-économiques, politiques et démographiques. Avec cet épisode, nous espérons donc avoir illustré des enjeux tels que la déconnexion qui existe dans nos sociétés modernes entre la nature et les valeurs environnementales des personnes ou des communautés d'une part, et d'autre part, les décisions prises par les élus et les décideurs en position de pouvoir qui contribuent à détruire cet environnement. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette déconnexion entre nature et société peut engendrer des conséquences significatives pour les populations touchées, notamment en limitant leur capacité de jouir de certains droits fondamentaux, ce qui augmente les facteurs de risque pouvant les contraindre à migrer. Merci à toutes les personnes qui nous partagent généreusement leur vécu et leurs réflexions dans ce balado. Merci à Virage Sonore pour la musique et le montage de cette série. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, nous vous invitons à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Le balado Précipitation fait partie d'un dossier spécial mené par le Centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.cerda.info. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous. À bientôt.